L'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Roger Fajnilberg, auteur du livre « Ce que j'ai vu à Auschwitz, les cahiers d'Alte », aux éditions du Seuil, Alte, du nom de son père, juif polonais déporté à Auschwitz d'avril 1942 à janvier 1945 et enrôlé dans les Sonderkommando pendant 18 mois. Un récit rare, consigné dans 4 carnets, remisé dans une boîte à chaussures, découverte et ouverte par Roger 80 ans plus tard, même si son père a témoigné très rapidement après la guerre, chose assez rare à cette époque.
Que vous dire ? La première chose, c'est que je ne suis pas un écrivain. Et ce dont je vous parle, ça n'est pas d'un roman. Ce dont je vous parle, c'est essentiellement du témoignage de mon père, Alter Fajnilberg, qui a été déporté par le premier convoi parti de France à Auschwitz, le 27 mars 1942. Un convoi dans lequel il y avait 1120 déportés hommes juifs et dont moins de 40 sont revenus vivants en 1945. Mais en plus, ce dont je vous parle, c'est de l'histoire d'un homme qui a été affecté pendant 18 mois dans ce qu'on appelle le Sonderkommando de Birkenau, c'est-à-dire le commando de déportés qui était chargé de sortir les cadavres des chambres à gaz, de les dépouiller de ce qui restait éventuellement encore comme objet de valeur sur leur corps, de raser les têtes des femmes pour utiliser les cheveux dans l'industrie allemande, par exemple, et de faire disparaître les corps en les brûlant, soit dans les crématoires, soit dans les fosses communes. Et mon père a aussi participé à la prise des photos, des 4 fameuses photos où l'on voit une colonne de femmes déportées allant vers une chambre à gaz et des charniers fumant de corps qu'on est en train de brûler. Mais l'histoire de mon père est celle de quelqu'un qui avait fait le choix de témoigner immédiatement après la guerre. Il a donné des premiers témoignages en Pologne en 1945, juste à la fin de la guerre, puis en France, quand il est revenu en France auprès de la commission officielle qui siégeait à Reims. Et il a écrit ensuite des textes pour compléter tout cela. Et ces textes sont restés enfermés dans une boîte à chaussures pendant 80 ans. J'ai toujours connu cette boîte à chaussures, mais je l'ai toujours connue fermée. Je ne savais pas ce qu'il y avait dedans et j'ai mis de nombreuses années avant d'oser ouvrir cette boîte à chaussures pour prendre connaissance de ce qu'il y avait dans cette boîte. Et là, j'ai trouvé des cahiers écrits en polonais dans lesquels il racontait tout simplement un témoignage de ce qu'il a vu, de ce qu'il a connu. Il ne parle pas de lui, il parle pour que ce témoignage serve à poursuivre, à juger et à condamner les criminels de guerre. Cette boîte, nous l'avons ouverte en 2005. En 2005, je trouve des cahiers écrits en polonais. Je ne parle pas le polonais. Autant je parle le yiddish, autant je ne parle pas le polonais. Et donc, commence cette aventure où je rencontre un jeune historien, Alban Perrin, qui travaille au mémorial de la Shoah, qui a fait des études à Katowice et en Pologne, qui a appris un peu le polonais et qui a épousé une jeune polonaise. Et ils acceptent de me traduire ces textes. Et à partir de là, avec Alban Perrin, on se rend compte qu'il y a dedans des éléments tout à fait importants, voire même des choses qui n'étaient pas connues encore, parce que mon père, ayant été déporté par le premier convoi, arrive à Auschwitz à un moment où Auschwitz n'est pas encore le camp d'extermination qu'il devient petit à petit. Il devient camp d'extermination fin 42, 43 et 44, surtout avec la déportation des Juifs de Hongrie, par exemple. Et donc, il nous permet de comprendre quelle a été l'évolution de ce camp, comment ça s'est passé, comment les nazis ont mis en place une industrie d'extermination fonctionnant de manière parfaitement industrielle, avec des règles, avec des normes, avec une violence, avec une méchanceté, avec une horreur. Et à partir de là, on est parti à la recherche d'éléments complémentaires pour documenter tout cela, pour apporter des informations supplémentaires, pour nous permettre de comprendre le sens, je dirais, de ce texte et de ce qu'il explique dans son témoignage. Et donc ça a été un travail de nombreuses années, près de 15 ans, pour arriver à aboutir à une première version de ce livre que l'on a complété ensuite parce que on m'a demandé d'ajouter un dernier élément qui était la question qu'on me posait souvent. Comment vous, en tant qu'enfant, vous avez pris conscience de tout cela? Comment vous, avez-vous pu vivre avec des parents qui avaient été déportés tous les deux, avec un papa qui a été dans le Sonderkommando de Birkenau? Et donc, j'ai complété ces éléments. On a abouti à ce texte tel qu'il est là. À partir de là, eh bien, il y a un an, le livre a été publié à l'occasion du 80e anniversaire de la libération des camps de concentration. Et depuis, si vous voulez, je n'arrête pas de le présenter dans des librairies, dans des associations, dans des écoles. On m'a demandé l'autorisation de faire une bande dessinée pour permettre à des publics plus jeunes, moins habitués à la lecture un peu rude, de comprendre et de connaître.
C'est Jeanne Teboul qui a mené les questions. Jeanne Teboul est docteure en anthropologie à l'Institut d'ethnologie de l'Université de Strasbourg.
Vous nous expliquez que vous avez fini par ouvrir cette boîte à chaussures en 2005, très tardivement d'une certaine manière, y compris après le décès de votre père et de votre mère. Peut-être nous expliquer ce que vous saviez de l'histoire de la déportation de votre père avant l'ouverture de cette boîte à chaussures, ce qui se racontait ou ce qui ne se racontait pas dans votre famille. Est-ce que l'ouverture de cette boîte a permis ou vous a appris ?
Je pense qu'un certain nombre d'entre vous qui ont vécu la même chose que moi dans leur famille vont s'y retrouver. Mes parents ne me parlaient pas de cela. En gros, nos parents, les parents déportés, n'avaient qu'une obsession, c'est de permettre à leurs enfants à qui ils venaient de donner la vie de vivre heureux, de sortir du cauchemar dans lequel ils avaient été. Ils étaient persuadés que cela ne se reproduirait plus jamais. Et donc, ils nous incitaient à aller de l'avant, à faire nos études, à être heureux, à profiter de la vie. Quand je leur posais des questions à mes parents, ils m'envoyaient valser en disant « t'occupe pas, on a souffert, ça a été terrible, on a perdu beaucoup de membres de notre famille, fais tes études, avance, sois heureux ». Et ils le faisaient pour nous protéger, puis sans doute parce que c'était difficile pour eux de dire à leurs enfants les horreurs qu'ils avaient subies. Mais ils en parlaient beaucoup avec leurs proches. Quand il y avait des amis, ils se retrouvaient à la maison ou les uns chez les autres le dimanche. De quoi ils parlaient ? De leur vie d'avant, ils parlaient de la guerre, ils parlaient de ce qu'ils avaient vécu, ils parlaient en yiddish. Et le yiddish, moi, je le comprenais, puisqu'à la maison, on parlait que yiddish. Mes parents ne parlaient pas français. Ma mère a été déportée de Pologne, elle est arrivée en France en 1945. Et mon père a certes été déporté de France, mais il n'a quasiment pas vécu en France. Donc, ils parlaient en yiddish entre eux, je le comprenais. Mais il y a des moments où, quand ils ne voulaient absolument pas que je comprenne ou que mes copains de mon âge comprennent, ils se mettaient à parler en polonais. Et à ce moment-là, je savais qu'il y avait des choses encore plus terribles qui se disaient et que là, je ne devais pas entendre. J'ai quand même entendu, quand vous me posez la question, comment vous avez su? Vous savez, quand on est bercé par les bras d'une maman qui porte un numéro matricule et dont les frères et les sœurs portent tous des numéros matricules, rien que ça, c'était déjà qu'est-ce que c'est que ces numéros qu'ont tous les gens qui sont chez vous dans des fêtes de famille. Et puis, quand on est gamin, comme moi, qu'on n'a aucun grand-parent, qu'on n'a à la maison aucun objet ayant appartenu à la famille avant la guerre, qu'on n'a pas de photo de qui que ce soit, on comprend bien que, je dirais, il y a quelque chose de particulier. Quand vous êtes invité chez des petits copains d'école où les parents vous disent « Ah ben ça appartenu à ma grand-mère ou à mon arrière-grand-mère, ça vient de ça, il y a telle photo qui vient de là » et que vous n'avez rien, vous comprenez bien que vous êtes dans une situation un peu différente des autres. Et donc, je crois qu'on comprend et on sent et on voit. Simplement, c'est vrai qu'ils ne me racontaient pas directement. J'aurais bien aimé apprendre de leur bouche directement des informations que je n'aurais jamais plus. Mais voilà, j'ai entendu un certain nombre de choses, j'ai enregistré. Ce que je dis souvent, c'est que j'ai été comme une sorte d'éponge et j'ai été en mesure de restituer un certain nombre de choses de ce que j'avais entendu. Et puis ensuite, j'ai appris des choses, j'ai lu, j'ai entendu, j'ai rencontré du monde. Et puis est arrivé ce texte qu'Alban Perrin et sa femme ont commencé à me traduire et en me donnant les traductions de ce qu'ils avaient trouvé dans les cahiers. Et on en a parlé ensemble. Et donc à ce moment-là, je pense que j'ai reconstitué à peu près tout. Mais très franchement, j'ai quand même l'impression que même avant l'ouverture des cahiers, je savais déjà beaucoup de choses. La lecture des cahiers m'a apporté un certain nombre de précisions et surtout, si vous voulez, ce qu'elle nous permet aujourd'hui, c'est qu'elle permet de transmettre aux nouvelles générations ou à ceux qui s'intéressent au sujet des informations extrêmement précises. Quand je vous disais tout à l'heure que mon père a été déporté par le premier convoi, il faut que j'ajoute immédiatement, premier convoi, ça veut dire que c'est un convoi qui arrive à un moment à Auschwitz, où Auschwitz est un petit camp. Il y avait à peine 6 000 à 8 000 internés. C'était essentiellement des Allemands, des Polonais antifascistes, des soldats soviétiques qui avaient été capturés sur le front et quelques Juifs. Il n'y avait pas encore beaucoup de Juifs à Auschwitz. Ce n'était pas encore le camp d'extermination et ça le devient petit à petit. Et donc le témoignage de mon père, qui est un témoignage assez rare et surtout de quelqu'un qui a été aussi longtemps dans le camp de concentration, nous permet de comprendre la mécanique que les nazis ont mis en place et il apporte un certain nombre d'informations, de précisions, de détails sur le fonctionnement, sur la manière dont malheureusement ils étaient obligés de faire disparaître les corps en les enfournant dans les crématoires. Les détails, si vous voulez, qui vont servir aux historiens d'aujourd'hui pour préciser leurs connaissances de cette période et apporter un certain nombre d'éléments.
Ce n'est qu'en 1985 que Alte Fajnilberg retourne à Auschwitz.
Dans les années 80, qu'il est retourné en Pologne en 85 pendant plusieurs semaines pour parler avec les gens du musée d'Auschwitz, pour faire le point, leur raconter, refaire avec eux le détail de tout cela. Et il a fallu attendre donc 85 pour qu'on lui redonne à nouveau la parole. Malheureusement, il est décédé en 87. Et il n'a pas pu aller beaucoup plus loin, si vous voulez. Il était épuisé, il était au bout du rouleau. En 87, il est mort. Et donc, ne nous est resté que son texte écrit en 1945. Et malgré ça, si vous voulez, moi, pendant des années et des années, je n'ai pas osé ouvrir cette boîte. Parce que je ne savais pas ce que j'allais trouver dedans. J'avais peur. Je ne savais pas quelles horreurs supplémentaires j'apprendrais. Je ne savais pas ce que j'apprendrais sur ma maman, par exemple. Parce que je parle beaucoup de mon papa et pas assez de ma mère. Pourquoi ? Parce que la concernant, elle, qui a été déportée, elle, de Pologne, de Lodz, je n'avais pas de documents écrits. Et donc, quand on a décidé de faire cette publication, on s'est dit avec Alban Perrin, il faut que ce soit un document incontestable et qui ne puisse pas être contesté par les négationnistes, par tous ceux qui remettent en cause l'histoire de la Shoah. Concernant Régine, ma maman, on n'avait pas de document. Mais ce que je ne savais pas, si vous voulez, parce qu'autour d'elle, quand il y avait des réunions de famille, je voyais une de mes tantes qui avait été affectée au bloc numéro 10, celui du docteur Mengele et des expérimentations médicales. Je ne savais pas ce que j'allais apprendre. Et donc, pendant des années, c'est vrai que je n'ai pas osé ouvrir cette boîte et que j'ai repoussé le moment. Et il a fallu 2005, il a fallu un événement extrêmement spécial pour que je me décide enfin à l'ouvrir. Et je vais vous raconter ce moment spécial parce qu'il fait un lien avec l'OSE dont parlait Laurent Gradvol tout à l'heure. Moi, j'ai été devenu directeur général de l'OSE en 2003. Et à l'OSE, je rencontrais chaque semaine, chaque lundi matin, ceux qu'on appelait les anciens enfants de Buchenwald, les survivants de ces 426 enfants que la France avait accueillis en 1945. Il y avait en gros 1000 enfants orphelins polonais et hongrois que les Américains avaient trouvés à Buchenwald. Et la France accepte d'en prendre la moitié et les confie à l'OSE pour s'occuper de leur éducation. Parmi eux, il y a des noms que vous connaissez, Elie Buzyn, Elie Wiesel et le grand rabbin d'Israël, Meir Lau. Et moi, je rencontrais chaque lundi les survivants à partir de 2003. On parlait en français, en yiddish, ils me racontaient, ils me parlaient de la vie à Lodz, etc. On parlait très amicalement. Et en 2005, ils sont invités par les autorités allemandes à venir, comme tous les survivants de Buchenwald, commémorer le 60e anniversaire. Et ils me demandent de les accompagner. Et là, il se déroule un incident qui aurait pu passer, je dirais, rester qu'un incident banal. Mais pour moi, il a pris une dimension incroyable. À la fin de cette journée, il y a des prises de parole. Les autorités allemandes passent la parole au ministre espagnol Jorge Semprún, qui était ministre de la Culture, qui était un ancien déporté de Buchenwald, et qui, à un moment donné, s'exprime en racontant le sort des déportés. Et il dit « Ce que je vous raconte là, bientôt, nous ne serons plus là pour vous le raconter. Il n'y aura plus personne de vivant. Et qui portera à ce moment-là notre mémoire ? Qui racontera, qui parlera pour nous ?» Et là, il y a un des membres de la délégation française qui se lève en hurlant, en disant « Nous serons toujours vivants, nous serons toujours là, etc. » Bon, devant 2 à 3 000 personnes, si vous voulez, un incident un peu dur, et moi, ça m'a marqué. Je ne sais pas pourquoi, je suis reparti de là complètement traumatisé par ce moment. Et je rentre quelques jours après, j'étais chez moi. Et moi, j'ai cette boîte. Et si vous voulez, mécaniquement, je tends la main parce que la boîte était derrière moi dans mon bureau. Et je dis, voilà, je dois l'ouvrir. Je la descends, j'ouvre la ficelle. Et là, je tombe sur ces cahiers, écrits de la main de mon père, en polonais. Je vais au mémorial de la Shoah quelques temps après. L'équipe du mémorial me dit, il n'y a pas de problème, on est preneur, confiez-nous les documents, on va les faire traduire et on les mettra à disposition des historiens qui voudront travailler dessus. Et moi, je leur dis non, écoutez, ça ne me va pas. J'avais toute raison de leur faire confiance, mais si vous voulez, je venais à peine de me saisir moi-même d'un document que je n'avais pas osé toucher aussi longtemps et dont je ne connaissais pas encore le contenu. Et je leur dis, écoutez, non, on va faire autrement. On va d'abord faire traduire et après, je verrai ce que j'en fais. Ils me font la proposition, ils me disent, voilà, on a chez nous un historien, un jeune historien, Alban Perrin, qui parle polonais, est-ce que vous voulez le rencontrer ? Dans son bureau, ils l'appellent, ils le font venir et je rencontre Alban Perrin au rez-de-chaussée du mémorial. Alban Perrin m'écoute, très prudent. Il me dit, d'accord, écoutez, je veux bien regarder. Et il m'a raconté il y a seulement quelques années, il a osé me raconter seulement il y a quelques années que quand il est rentré chez lui le soir, il dit à sa femme, écoute, j'ai rencontré un mec aujourd'hui, si l'histoire qu'il raconte est vraie, son père a dû mourir 10 fois, 20 fois, 30 fois, c'est pas possible. Et donc, en tant qu'historien, il prend les documents, il les regarde avec sa femme, il commence à les étudier. Et il appelle le musée d'Auschwitz, où il allait régulièrement en tant qu'accompagnateur de groupe. Et là, le musée d'Auschwitz lui dit, oui, Alter von Silberg, on a des documents importants le concernant, on a plusieurs boîtes. Et il leur dit, est-ce que vous pouvez m'envoyer les documents ? Ils lui disent, non, écoute, il y en a trop. La prochaine fois que tu viendras à Auschwitz, tu viendras les regarder. Et là, il me dit, il s'est trouvé devant plusieurs classeurs. Il a tout vérifié. Et voilà comment on en est arrivé, si vous voulez, à cela.
C'était la captation de la conférence de Roger Fachnilberg, auteur du livre Ce que j'ai vu à Auschwitz, les cahiers d'Alte, d'après les carnets de son père qui a été déporté à Auschwitz entre 1942 et 1945. Et pour finir à la question de l'inversion narrative contemporaine, il répond.
Oh, écoutez, tout simplement que cette inversion ne correspond absolument ni à la réalité, que c'est une manipulation de l'histoire. Parce qu'en regardant aussi loin que je puisse le faire, les Juifs n'ont jamais été en conflit avec quelque peuple que ce soit. Ils n'ont jamais agressé qui que ce soit. Ils n'ont jamais cherché d'expansion territoriale en dehors d'une terre qui était ancestralement la leur. Et ils ont toujours souhaité être en relation confiante avec leurs voisins. Le drame, c'est que ce sont leurs voisins qui ont refusé l'existence d'Israël et que depuis 80 ans, les Israéliens sont obligés de se défendre quotidiennement.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.